Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content de venir à Strasbourg aujourd'hui pour contribuer au bel événement que vous organisez cette semaine. Alors, on va essayer de parler ce matin de numérique responsable, mais surtout de comment est-ce qu'on peut mettre en action les organisations. Je pense que beaucoup maintenant commencent à mettre en place des politiques numériques responsables, à acculturer chacun sur le pourquoi du comment. La difficulté qui est devant nous, c'est changer nos habitudes. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on va discuter ce matin et je vais vous présenter ce que l'on fait chez l'Eco. Donc, je me présente, moi je suis Arnaud Rérol, je suis le dirigeant de l'Eco. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les sujets de transformation digitale. Et puis, depuis presque 2 ans, on a développé une plateforme d'appui au changement utilisant la data. Et depuis quelques mois, elle s'appelle Grit. Et depuis quelques mois, on est dans le programme d'accélération de L'Oréal à Station F, avec pour objectif de valider l'opportunité marché, valider l'impact de la solution à l'échelle. Je vous parlerai des premiers résultats qu'on a sur le sujet. Mais encore une fois, l'objectif, il est vraiment d'arriver à changer les pratiques de chacun d'entre nous. La finalité derrière, c'est certes, chaque petite économie de carbone cumulée finit par faire une économie significative. Mais gardons en tête que le numérique, ce n'est que 2-4% des émissions au total. Derrière, il y a un effet de levier beaucoup plus important à aller chercher pour les organisations, c'est le changement culturel. L'objectif aujourd'hui de beaucoup de grandes organisations, et je vous ai mis quelques logos, toutes ces organisations-là se sont engagées à des réductions d'émissions carbone entre 30 à 50% d'ici 2030. 2030, c'est quasiment demain. Donc, ce n'est pas des petites économies à la marge qui leur permettront d'atteindre ces objectifs. Elles sont obligées de revoir en profondeur leurs activités, leurs processus pour se décarboner. Et il est complètement vain de penser que il y a une nouvelle technologie qui va résoudre le problème ou qu'une équipe en chambre va arriver à trouver la solution pour le bénéfice de toute l'organisation. Même si c'était le cas, il faudrait la déployer au sein de l'organisation et il y aurait des changements à opérer. Et pour que les organisations acceptent de changer, il faut qu'elles comprennent le sens de la transformation et qu'elles veuillent contribuer à ce changement. Donc le changement culturel, il est comment dire, le socle quelque part de la réussite des process de transformation pour la décarbonation des organisations. Et elles sont conscientes de ça. Une des premières entreprises à nous avoir fait confiance, et même avec qui on a co-développé l'expérience de l'application Grit, c'est Vinci. Et Vinci, ils sont dans le ciment, ils ne sont pas dans le numérique. Et leur objectif, c'est d'arriver à ce que tout le travail d'acculturation sur les politiques environnementales soit aussi un travail qui consiste à impliquer les collaborateurs dans des actions au quotidien. Alors, si on revient un peu aussi au numérique, le numérique nous a été vendu, et je reconnais, j'ai fait partie de ceux qui ont vendu cette notion de dématérialisation, avec du coup cette notion de finalement on économise du papier. Je pense qu'il y a 10-15 ans, quand on intervenait sur ces sujets-là, on parlait de ça. On vendait la dématérialisation comme un bienfait environnemental. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un effet rebond qui est venu contrebalancer cet effet. Donc, il est effectivement, il y a une empreinte environnementale moindre à diffuser une information de manière électronique. La seule chose, c'est qu'on a multiplié par 1 000, 100 000, 1 million le nombre d'informations circulantes par rapport à il y a 20 ans. Donc, on est venu complètement écraser les bénéfices d'optimisation technologique par un accroissement foudroyant, je vais y arriver, des usages. Si on regarde ce qui se passe sur des plateformes d'environnement de travail qui sont passées dans le cloud, comme Microsoft 365, donc là, on a constitué des ABAC avec 20 000 utilisateurs dans différentes organisations et on a regardé leurs activités pendant 2 années. Donc, on s'est inscrit dans un temps assez long et on a voulu regarder le nombre de mails envoyés, l'évolution des espaces de stockage, l'évolution des espaces de partage, de travail collaboratif. Et vous voyez, c'est une, j'allais dire, lente augmentation, mais c'est une augmentation de 60% en 2 ans, donc à peu près de 30% tous les ans. Donc c'est lié principalement à la levée des limitations qu'on connaissait il y a quelques années sur les tailles de pièces jointes, sur les tailles des boîtes aux lettres, sur les tailles des espaces de stockage. Donc l'optimisation technologique du cloud, qui est réelle, un data center dans le cloud est probablement moins énergivore qu'un data center privatif, surtout ceux qui étaient, que sont capables d'avoir des organisations de taille modeste. Mais l'encouragement à un usage sans limite contrebalance le bénéfice qu'on a obtenu par l'optimisation technologique. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'ère du gaspillage. Pour moi, on est à peu près, on peut faire le parallèle avec la situation où l'énergie coûte pas cher. Finalement, on aère chez soi, on laisse les fenêtres ouvertes, ou alors on quitte une pièce et on laisse la lumière allumée. Ça devient complètement aujourd'hui d'un autre temps. Pourtant, ça a été des comportements qui ont pu exister. Et dans le numérique, on est à peu près à ce stade-là aujourd'hui. Donc, un des objectifs, c'est d'arriver à faire changer l'état d'esprit, la perception de l'impact environnemental du numérique, qu'on casse cette idée de quelque chose qui est dématérialisé, donc sans impact matériel. Ce n'est pas vrai. De par son impact environnemental, il a un impact matériel, et qu'on revienne à un usage plus raisonné. Et notre objectif, c'est d'arriver à aider les individus à développer des pratiques numériques qui soient tenables dans la durée. Et tenable dans la durée, on lui a mis un sens large, comme beaucoup maintenant. Il s'agit de faire plus sobre, mais également d'être dans d'essayer d'assurer le bien-être numérique. Ça, c'est un phénomène qui s'est aggravé plus récemment avec la dématérialisation, enfin, avec le travail à distance suite au Covid. Vous êtes probablement plus ou moins dans ce contexte-là. On a gagné en agilité, en flexibilité dans ces lieux et temps de travail, mais on a perdu comment dire, en capacité à isoler les temps de travail des temps de repos. Aujourd'hui, on peut facilement recevoir des mails le soir et on peut être tenté soi-même de travailler finalement après le dîner parce qu'on a pris un temps de pause avec sa famille en fin d'après-midi. Et cette déstructuration du temps de travail, sans nouvelle convention d'usage, sans encadrement, elle entraîne une hyperconnexion. Donc on parlera aussi de ça tout à l'heure. Les deux sont extrêmement liés et les solutions à l'un des problèmes sont également des solutions au second. Et puis pour que ce soit tenable dans la durée et qu'on arrive à bien aligner toutes les énergies, il faut aussi garder en tête qu'on utilise le numérique pour travailler. On cherche l'efficacité. Hein, on a tous envie de réaliser nos tâches avec le plus d'efficacité possible. Et il ne s'agit pas de venir rajouter des contraintes aux uns et aux autres, et il s'agit d'assurer collectivement une efficacité. Donc, tenir dans la durée, il faut que ce soit bon pour la planète, bon pour les hommes et bon pour les organisations. Voilà, donc on va voir après comment est-ce qu'on peut y arriver. L'autre constat qu'on a fait avec ce benchmark, c'est que non seulement en moyenne, les émissions augmentent, mais en plus, on a 85% des collaborateurs qui étaient dans ce panel qui aggravent leurs émissions tous les ans. Et on en a même une partie. Tous ceux qui sont ici, qui doublent leurs émissions chaque année. Donc, il y a une marge de progrès importante. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive assez facilement, du coup, à réduire ces émissions et avoir. Il y a des bénéfices rapides à obtenir sur ces sujets-là. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on a quasiment la totalité des Français, 94%, qui sont extrêmement sensibles aux enjeux climatiques. Et à l'inverse, dans l'entreprise, on a fait un sondage avec Ipsos sur un panel représentatif pour savoir comment est-ce qu'ils se sentaient concernés, impliqués par les démarches environnementales de leur organisation. Et on a plus de la moitié d'entre eux, 58% d'entre eux, qui ne se sentent pas concernés. Donc, comment est-ce que l'entreprise peut arriver à se décarboner et si elle n'est pas capable de mobiliser, ne serait-ce que dans l'idée, parce que après les gens peuvent se sentir concernés, de là à ce qu'ils agissent et qu'ils fassent de réels efforts, c'est encore une autre histoire. Donc, il y a un vrai sujet autour de ce changement culturel. Si on revient sur le cloud, et vous pouvez voir pas mal de discussions autour, est-ce qu'on doit embêter les gens avec l'envoi d'emails, avec il y a des très belles opérations chaque année de digital cleanup. Qui parfois font un peu grincer des dents parce que, on peut donner l'impression qu'on focalise sur des petits détails alors qu'il y a des leviers à beaucoup plus forts impacts à aller chercher. Tout est vrai. Donc déjà, la question d'aller chercher le plus fort impact, je pense que, il faut, à l'échelle de chacun ou de chaque organisation, aller chercher là où il y a le plus d'impact. Donc, une organisation, elle peut aller chercher effectivement sur ses data centers parce qu'elle a la maîtrise du choix des data centers, l'usage qu'elle en fait. Un pays peut aussi jouer à son échelle, mais il faut quand même garder en tête que la France émet que 1% des émissions CO2 à l'échelle mondiale. Donc même si la France était vertueuse, ça ne changerait pas la donne du point de vue du climat. Donc ce n'est pas un argument à opposer lorsqu'on nous soumet une proposition de progrès pour réduire nos émissions. Si on s'intéresse à l'individu, ses équipements, il va les changer, il va changer son équipement. Par exemple, si on reste dans le cadre du travail, son ordinateur ou son smartphone, espérons tous les 4 ans, voilà, que ce soit pas avant, sauf casse ou autre, s'il n'est pas réparable. Tous les 4 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant 4 ans? Il ne se passe rien, on ne fait pas d'efforts, on ne cherche pas à changer ses habitudes. C'est ça qu'on propose finalement aux collaborateurs. C'est de travailler sur des actions quotidiennes qui vont finalement avoir un impact dans la durée équivalente à celle que l'on a en rallongeant la durée de vie de ses équipements ou en choisissant des équipements qui sont plus réparables ou avec un meilleur impact environnemental. Et c'est le cloud. Il y a beaucoup d'études. Il faut faire très attention lorsque vous regardez les études. Les études qui ont plus de 5 ans, le cloud n'existait pas. En tout cas, n'était pas démocratisé comme il est aujourd'hui. Et lorsqu'on parlait, par exemple, d'envoyer un email ou du stockage de documents, c'était sur des disques durs qui ne consomment pas d'énergie lorsqu'ils sont éteints, qui ne sont pas non plus redondants pour avoir un accès en quelques millisecondes depuis n'importe quel point du monde. C'est le cas du cloud. Donc le cloud est extrêmement énergivore parce que déjà, il y a une redondance de l'information pour obtenir la qualité de service qu'on a tous envie d'avoir. C'est assez désagréable d'attendre 10-20 secondes, même moins que ça, le document qui est sur un espace de stockage. Donc, c'est ce qui provoque un contre-pied, quelque part, en termes de dépenses énergétiques par rapport à un usage donné. Et aujourd'hui, en moyenne, on est à plus de 10 kilos de carbone d'émissions sur les usages cloud par an. Un travailleur de l'information comme moi, je passe ma journée devant un écran à produire des documents, etc. On est plutôt autour de 30, 40, 50 kilos de carbone par an. Un ordinateur portable, ça dépend des modèles, mais on va dire un ordinateur portable, ça va être autour de 130, 150 kilos de carbone sur son cycle de vie, du moment où on le construit jusqu'au moment où il est recyclé. Donc si on le garde 3-4 ans, on voit que les émissions cloud vont être équivalentes, voire même dépasser dans certaines situations celles de l'équipement. Donc il y a une vraie combinaison à avoir. Ce n'est pas opposer les deux, il faut agir sur les deux leviers. Mais pour faire des choix et accepter de faire durer son équipement ou accepter lorsqu'on arrive en fonction de prendre un équipement qui a été reconditionné, il faut qu'on soit conscientisé, il faut qu'on soit déjà investi sur ce sujet environnemental. Et ça se fait beaucoup plus à travers des actions quotidiennes, en introduisant dans nos routines des nouvelles pratiques. On va y arriver. Donc aujourd'hui, il faut garder en tête que les systèmes de digital workplace, tous, il ne faut pas jeter la pierre à l'un ou à l'autre, sont pas du tout optimisés. Par exemple, au sein d'une entreprise, lorsque vous envoyez une pièce jointe à plusieurs personnes, la pièce jointe va être dupliquée sur le serveur. Lorsque vous enregistrez des documents dans SharePoint, pour ceux qui connaissent l'univers de Microsoft, mais c'est vrai dans les autres, on pourrait se dire que lorsqu'on fait une édition avec une nouvelle version, bah c'est juste une sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire qu'on sauvegarde que la petite différence. Bah non, c'est un nouveau fichier informatique qui est copié à côté. Et quand on sait qu'en plus qu'on ne peut pas limiter à moins de 100 versions les documents dans SharePoint Online, vous imaginez en fait qu'on passe notre temps presque de manière involontaire à produire des documents qui vont avoir une consommation d'espace disque croissante. Et si après on rajoute au fait qu'on a du mal à faire le ménage, à prendre le temps de faire le ménage, eh bien, ça consomme de plus en plus d'espace. L'autre élément aussi intéressant, et on a beau avoir fait ces mesures dans un environnement professionnel, c'est qu'on a énormément de fichiers multimédia. Bon, ça, c'est lié à la porosité des usages de travail et des usages personnels. Voilà, on essaie d'utiliser qu'un équipement, et puis d'ailleurs, on a un peu un dilemme, c'est plutôt bien d'utiliser qu'un seul équipement à titre personnel et professionnel quand on le peut. Maintenant, il y a parfois des contraintes de sécurité qui font que les organisations refusent ce genre de choses parce qu'elles ne peuvent pas bien maîtriser les équipements. Mais quand c'est possible, c'est bien. Ça aussi, parfois, comme inconvénient, du coup, de voir des fichiers vidéo, des images, qui sont pas forcément. Tout le monde n'est pas graphiste. Et pour autant, en moyenne, on a à peu près ce type de ratio. Donc, c'est voilà, 60 à 90% de l'espace disque, c'est de la vidéo. Alors, ça peut provenir aussi des enregistrements des vidéos. On reviendra tout à l'heure sur le bien-être numérique, ces fonctionnalités où on nous dit ah ben, je vais enregistrer la réunion parce que mon collègue n'a pas pu venir, il a une autre réunion et qu'on se fait un petit replay le soir de la réunion. Voilà. Peut-être qu'on marche un peu sur la tête. En tout cas, c'est pas, comment dire, ça n'a pas un impact environnemental nul. Et puis en plus, après, on pourra voir sur l'intérêt de rentrer dans ce mode de fonctionnement. Voilà pour quelques points de repère. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le mail, on peut agir. C'est hyper simple d'agir. Parce que maintenant, on est en 2023, on a d'autres manières de travailler que de collaborer dans l'email. Et gardez en tête que envoyer un email à X destinataire, ça va être la duplication de la pièce jointe. S'il y a réponse d'une personne vers l'émetteur et qui fait répondre à tous, bah on remultiplie le nombre de pièces jointes stockées sur le serveur de messagerie. Alors que si vous utilisez un espace de collaboration et vous discutez directement dans le document, l'essentiel de l'espace consommé, il est lié au document. Les discussions sont quelques centaines de caractères. C'est bien moins impactant. Elles seront stockées une seule fois. Donc, on peut assez rapidement avoir un ratio de 1 à 10 entre le coût environnemental d'une collaboration dans un espace de partage versus dans le mail. En attendant, on peut faire attention au nombre de destinataires à qui on envoie les pièces jointes. On peut faire attention à la taille des pièces jointes. Vous avez tous à disposition des possibilités de déposer un lien, de déposer le fichier sur un serveur et un lien. Comme ça, vous pouvez envoyer à 4-5 personnes. Seules les personnes qui veulent vraiment le document iront chercher le document. Et puis surtout, nettoyer ces boîtes mail, parce que cette peur de perdre une information, elle ne justifie pas qu'on ne nettoie jamais nos boîtes mail. Je vous donne un exemple. Tous les mails que vous recevez où vous n'êtes pas en copie directe, a priori, vous avez lu l'information et je sais pas, un mail d'il y a 3 mois, vous pouvez les supprimer. Aujourd'hui, vos tailles de boîte aux lettres ne vous l'impose pas. Voilà, ça c'était ce que j'étais en train d'illustrer. Un seul stockage contre la démultiplication des versions sur les serveurs de messagerie. C'est vrai en interne comme en externe de l'entreprise. Qu'un petit point de repère, 1 téraoctet de données sauvegardées dans le cloud, c'est 400 kilos de carbone. 1 téraoctet aujourd'hui, c'est 5 euros par mois chez Box, chez Microsoft, chez Apple. La tonne de carbone, c'est, je ne sais plus où on en est, mais on essaye d'être autour des 100 euros. Pour vous dire que aujourd'hui, on ne prend pas en compte dans le prix des drives l'impact écologique. Voilà. Ce n'est pas normal que les prix de l'espace de stockage soient aussi bas. Ce n'est pas normal que... je ne comprends pas comment ces services en ligne peuvent avoir des approches en faveur de l'environnement et inciter l'usage sans limite de leurs espaces de stockage. Alors la réponse à ça, pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est qu'ils achètent de l'électricité verte, mais l'électricité verte, vous le savez, elle est en quantité limitée. Donc si elle est utilisée par les data centers, elle n'est pas utilisée par l'hôpital du coin et on doit utiliser de l'énergie carbonée à côté. Donc ce n'est pas une réponse satisfaisante, c'est leur réponse, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante. 400 kilos de carbone sur un terrain et je peux vous dire qu'on voit de plus en plus d'utilisateurs dans l'entreprise qui sont bien au-delà des 100 gigas et qui se rapprochent de cette limitation. Donc il y a des choses assez simples à faire. L'avantage de ce gaspillage, c'est qu'aujourd'hui, on a des quick wins. On peut facilement identifier les gros fichiers volumineux, ceux qui sont présents sur nos espaces depuis plusieurs mois et les supprimer. Donc on arrive, dès qu'on se préoccupe de cette question, à réduire ces émissions. Parce que chaque jour donné, le fichier en question, il va émettre de l'énergie, enfin, il va consommer de l'énergie, donc émettre du carbone. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on propose à nos interlocuteurs d'aborder la question de l'évolution des pratiques. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'embêter les gens. Je pense qu'on ne peut pas mobiliser durablement les gens sur une contrainte. Il faut essayer de les mobiliser sur une aspiration attractive et accompagner cette transition. Donc déjà, aujourd'hui, on peut arriver à identifier les usages qu'on va dire de gaspillage. Donc, c'est ceux qui n'utilisent jamais les espaces de travail collaboratif et qui ne travaillent que dans le mail. Il y a des usages ensuite de transition qui ne sont pas tenables dans la durée, ils ne sont pas idéaux, mais déjà, ils permettent de progresser vers quelque chose de plus tenable. Donc là, on va utiliser les espaces en ligne, mais on va continuer de discuter dans le mail. Le mail reste encore, on va dire, ce qui organise le flux de travail. Donc là, c'est la majorité des utilisateurs que je rencontre qui sont dans ce cas de figure, en tout cas dans les organisations dans lesquelles il y a des digital workplaces. Et puis ensuite, ça émerge de plus en plus, des pratiques qui sont responsables, c'est-à-dire c'est celles qui vont viser finalement non pas à limiter l'usage du numérique, mais à l'utiliser au mieux. Alors, par rapport à une intention donnée, utiliser la méthode qui est la plus efficace. Donc, sur les stockages, c'est ne pas dupliquer les stockages. L'absence d'organisation de l'information dans les espaces partagés, tous ces lecteurs réseau ou ces sites Teams ou SharePoint qui se démultiplient parce qu'on veut faciliter la capacité, la possibilité pour les équipes de créer ces espaces. Si ce n'est pas gouverné, ça crée un fatras de documents, pour rester poli. Chacun, ne s'y retrouvant plus, se sent obligé de récupérer l'information sur son propre espace pour l'organiser à sa guise et retrouver l'info. Qu'est-ce qu'on fait là? Au lieu d'avoir un espace de référence partagé, on reduplique l'information. Donc c'est ça, arriver sur le niveau 3, c'est du côté de l'organisation mieux gouverner l'information et du côté des utilisateurs faire l'effort de bien organiser l'information pour qu'elle soit de référence pour chacun. C'est aussi travailler en ligne, accepter d'auditer un document qui n'est pas terminé en ligne, alors qu'on a psychologiquement plutôt le réflexe de travailler dans son coin, pas sous le regard de ses collègues, pour ensuite, une fois que le travail est bien relu, bien finalisé, le partager aux autres. Donc ça, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut aussi arriver à adopter, et l'organisation peut le faciliter en créant des sphères de confiance. Voilà. On a le droit d'écrire, on a le droit d'écrire des choses rapidement, pas forcément bien formulées, avec des fautes d'orthographe, des idées qui ne sont pas forcément abouties. Voilà. Si le regard des autres est bienveillant par rapport à ça, on se sent libre de prendre des notes de réunion directement. Faites le test. Prochaine réunion d'équipe, vous prenez un fichier. Au lieu de prendre vos notes de votre côté, vous prenez un fichier en ligne et vous dites à tout le monde, bah voilà, je prends mes notes là, vous pouvez venir contribuer aussi. Ce qui est gênant, ce n'est pas d'écrire, c'est de se dire, mince, ils sont en train de voir ce que je suis en train d'écrire. Voilà. C'est cet état d'esprit-là, enfin, c'est pas un état d'esprit, pardon, c'est ce petit changement qu'il faut arriver à opérer. Et c'est pour ça que c'est difficile d'aller sur ce niveau de pratique plus élaboré. C'est ça qu'il va falloir accompagner. Voilà. Pas juste faire des injonctions de nettoyer vos espaces disques ou n'envoyer plus de mails. Voilà. Donc mettre en mouvement dans la durée, c'est quelque chose qui a un sens à plusieurs niveaux. D'abord, ça va vous permettre de réduire les émissions. Voilà. Maintenant, vous aurez toujours quelqu'un pour vous rappeler que vous êtes en train de travailler sur 2% ou 4% du bilan carbone de votre organisation ou de votre bilan carbone personnel. Ça aussi, et surtout, c'est un des meilleurs moyens pour impliquer tous les collaborateurs, tous les agents au sein de l'organisation. Il y en a un deuxième, c'est la mobilité douce. C'est-à-dire que c'est large assiette, ça concerne quasiment tout le monde. Ça amène chacun à se questionner par rapport à sa façon de faire, et il y a des solutions. L'autre objectif, l'autre aussi raison pour laquelle vous avez intérêt à travailler dans ce sens-là, c'est que on peut, pour faire un raccourci mais, ou une caricature, mais globalement, nos pratiques de travail ont très peu évolué en 20 ans comparé aux technos. Quand on voit à quel point le mail, j'aurais pu le dire tout à l'heure, hein, notre étude en janvier, on avait, c'est 63 ou 66% des collaborateurs dans les grandes entreprises qui utilisent l'email comme outil de collaboration principal. Donc on est encore finalement à une pratique qu'on avait il y a 20 ans. Donc aider les collaborateurs à changer de pratique. Et puis le dernier point, c'est finalement ce qui nous attend. Avec ces enjeux environnementaux, climatiques, c'est des changements qui vont être de plus en plus impactants, de plus en plus forts à opérer au sein des organisations. Et donc, bien préparer, rendre son entreprise ou son organisation résiliente, c'est lui donner cette capacité à être en mouvement, tout le temps changer, ne pas se satisfaire du statu quo. On devrait blâmer le statu quo et encourager la mise en mouvement, même s'il y a des erreurs. C'est le principe même de l'apprentissage. Ce n'est pas forcément le cas dans les cultures aujourd'hui des organisations. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et je vais pas, je, le but, ce n'est pas que je vous présente précisément ce qu'on fait, mais je vous donne pour vous. Voilà, on est dans une démarche d'apprentissage nous-mêmes, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Donc là, aujourd'hui, on a fait au début d'année un POC avec Accor et on a réussi à mesurer que les utilisateurs de la démarche, et la démarche, elle consiste finalement à mettre les datas devant chacun, à mettre la trajectoire. Vous voyez le graphe que je vous ai montré tout à l'heure? Chacun peut voir son graphe. Chacun peut voir sa trajectoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des leviers, il y a des succès rapides à les obtenir. Chacun peut voir, lorsqu'il agit, les bénéfices qu'il obtient. Vous rajoutez autour de ça une dynamique collective, un peu de nudge, et vous arrivez à créer sur plusieurs semaines des résultats probants et qui vont bien sûr être de plus en plus marqués au fil du temps. Donc 16% 15% de réduction auprès des utilisateurs de cette démarche. Et on a pris une population de témoins pour voilà, essayer de voir et couper tous les biais qui pouvaient exister, travailler dans la même entité qu'eux. Et eux, ils ont continué à aggraver leurs émissions. Et ils ont eu en plus le même discours du sponsor, de sensibilisation et d'attention autour du numérique responsable. Ça n'a pas empêché qu'ils n'ont quasiment pas fait évoluer leurs pratiques. Voilà. Et du coup, on est en train d'élargir le champ chez Accor grâce à ces résultats positifs. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un triptyque et on va pouvoir parler maintenant de la question du bien-être numérique et des questions liées à l'hyperconnexion. Parce qu'en fait, l'infobésité qui génère toutes ces émissions de CO2, elle génère aussi des troubles pour nous, utilisateurs. Et en agissant sur l'un, on arrive en fait à questionner ces façons de travailler et on a d'une pierre plusieurs coups quelque part. On va travailler sur on va aller vers un mieux travailler ou un travailler différemment qui va permettre de gagner en bénéfices, sobriété, bien-être et efficacité. Donc, je vous ai déjà tout à l'heure un peu évoqué les pistes, hein, c'est la réduction des volumes stockés, le fait aussi de ne pas émietter l'information en la dupliquant sur différents espaces. Et puis, on va aussi travailler, on parlait dans un instant, des réunions, du temps croissant que l'on passe en réunion en lien avec notamment le télétravail et les visios. Alors là, je vais vous parler des résultats d'une étude qu'on a réalisée avec Cogix, qui est une super agence de neuroscientifiques. Enfin, ce sont que des docteurs en neurosciences. Et ils s'intéressent à comment fonctionne le cerveau et comment est impacté le cerveau au sein des organisations, voilà, par nos modes d'organisation et les aspects culturels, les pratiques de travail. Et on a rapproché avec eux des études en neurosciences et les datas que l'on avait sur des constats objectifs de pratiques dans les organisations. Donc, on a pris toujours ce panel de 20 000 utilisateurs. Voilà, c'est toute l'équipe qui a travaillé. Ça a été un gros, gros, gros travail. Et la première question qu'on s'est posée, donc c'était l'hiver dernier, hein, c'est: existe-t-il des situations d'hyperconnexion qui vont venir peser sur la santé des collaborateurs? Souvent, lorsqu'on discute avec les uns les autres, on peut se dire oui, ok, là, cette personne a eu une dure semaine. Mais voilà, ce n'est qu'une dure semaine et ensuite, on a un rythme plus normal qui suit. Ou alors, soi-même, ne pas se rendre compte que travailler régulièrement sur des temps de repos finit par nous fatiguer. Et on ne se rend même pas compte de la fatigue. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit, je reviendrai dessus dans un instant, c'est qu'on a tendance à se penser tous des supermans, des superwomen, et à pas bien connaître notre corps, en tout cas pas bien connaître les limites de notre cerveau. Donc, existe-t-il des situations d'hyperconnexion? Et ça, c'était réellement une question qu'on s'est posée. Donc, je ne vais pas faire tenir le suspense longtemps. Il y en a, et c'est à hauteur de 10% sur ce panel-là. Et on a été extrêmement, comment dire, on n'a pas été très sévère parce qu'on ne voulait pas caricaturer notre travail. On a pris une situation d'hyperconnexion par le fait de. Je reviendrai là-dessus dans 2 secondes. Par le fait de travailler sur des temps de repos. Et les temps de repos, c'est en dehors de la plage usuelle de travail, 8h-20h. C'est plutôt large ma plage. Hein. On a même pris la plage de déjeuner dedans. Ces 10% sont des personnes qui ont des interactions en dehors de cette plage-là, la moitié du temps sur un trimestre. Et là, lorsqu'on fait des rapprochements avec les études en neurosciences, on se rend compte que ces personnes-là sont vraiment exposées Alors, il y a des troubles qui sont croissants, ça va de la démotivation, ça va de l'inefficacité, ça va de perte de goût sociaux ou au travail. Puis ça va, vous savez, jusqu'au à la fatigue beaucoup plus forte et à des troubles de type burn-out. La première information, c'est qu'on ne peut pas résumer par une moyenne. Ce serait une erreur de dire voilà ce qui se passe dans une organisation. Parce que ça, ce sont des utilisateurs. Chaque point est un utilisateur. Nombre de mails envoyés, nombre d'heures en réunion. Si vous prenez la moyenne et vous vous fixez là, vous décrivez la situation de quelques-uns, mais vous ne décrivez pas la situation de l'ensemble. Donc la première information, c'est que dans toutes les organisations, c'est extrêmement hétérogène. Et c'est une des raisons pour laquelle on a du mal à appréhender le sujet. C'est que finalement, on n'a pas de situation suffisamment homogène pour pouvoir y appliquer une réponse. Donc, il va falloir agir différemment. Donc, on a distingué dans notre étude trois profils, l'hyperconnecté, dont je viens de parler, l'intermédiaire, qui, lui, ponctuellement, est en situation d'hyperconnexion, et puis le profil qu'on appelait Zen, ouais, c'est ça, qui, lui, voilà, arrive à travailler dans ses plages de travail. Alors, tout de suite, pour casser l'idée que le zen fout rien et que l'hyperconnecté travaille, le zen, on l'a montré, arrive à générer, à faire autant de réunions ou envoyer autant d'emails que certains zen arrivent à faire autant de réunions et d'emails que certains hyperconnectés. Ce n'est pas qu'une question de charge de travail. Il y a un lien quand même, mais ce n'est pas que ça. Voilà, 10% d'hyperconnectés, 75% d'intermédiaires. Et on a tendance à penser qu'on a été trop large. Donc, si on était un peu plus réaliste sur les plages usuelles de travail, le chiffre de 10%, il serait plus élevé. Voilà. Donc, si on regarde sur ce graphe, on a mis en couleur les différents profils. Les rouges sont les hyperconnectés, les bleus, c'est les 75% intermédiaires, et les verts, les zen. Donc, on voit quand même que les hyperconnectés ont une plage d'envoi de mails dans la journée, c'est-à-dire entre le premier mail envoyé et le dernier mail envoyé dans la journée, qui commence à tasser voilà, 10 heures, 12 heures. Bon, il y a quelques extraterrestres qui sont allés jusqu'à 15 heures de temps en temps. Pareil sur le nombre de réunions cumulées. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à 500 heures de réunions cumulées. Sur quelle période? Sur le deuxième, sur un trimestre. Et si vous regardez aussi la taille des disques, c'est lorsque les gens enchaînent les réunions sans espace de pause. Voilà. Donc on voit, bah bien sûr, plus on va à droite, plus on enchaîne les réunions. Et ça, c'est un autre élément hyper fatigant, le fait de ne pas laisser son cerveau se reposer. Donc on a les moyennes de chacune de nos populations, ce qui nous donne déjà une information plus précise. Si on regarde ensuite ce qu'on appelle les plages de récupération. Donc les plages de récupération, pour nos collègues de Cogix, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour notre santé physique, pour notre performance. Et aujourd'hui, l'hyperconnexion, le fait qu'on ait accès à nos outils de travail en permanence, nous a amené à complètement déborder sur ces temps de récupération. Donc c'est bah, déjà, enfin, le plus simple, c'est de comprendre, c'est que lorsqu'on travaille le soir, et ce n'est pas forcément qu'on se met derrière son ordinateur, assis à une table pour travailler de manière explicite. C'est on est avec sa famille et on regarde un mail, et puis on finit par lire un mail, puis un deuxième mail, et puis on commence à y penser. On est encore dans la conversation avec les autres, mais il y a quand même ce petit mail qui nous travaille. Et puis on se dit, ah tiens, je vais y répondre, comme ça je vais dormir tête reposée. Voilà. C'est ça les petites situations qu'on peut tous rencontrer. Ça, ce sont des interruptions. Au niveau de notre cerveau, nous on est assis sur une chaise, mais notre cerveau, lui, s'est remis en marche sur le sujet du travail. Et donc, c'est considéré comme finalement, on l'empêche de se reposer. Donc, on voit les populations hyperconnectées, ils sont en orange. Ils envoient plus de mails en moyenne que les profils intermédiaires. Alors, ce que j'aurais dû aussi vous dire, c'est que dans notre panel, il y a des collectivités, des entreprises. Des entreprises du tertiaire, des entreprises industrielles. Donc, il y a ce qu'on appelle des. C'est nul ce terme, des frontlines, enfin des travailleurs qui ne sont pas derrière un ordinateur, hein, qui ont accès à leur mail via leur smartphone ou qui accèdent ponctuellement à leurs environnements de travail. Donc, il y a aussi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a cette hétérogénéité en termes d'envoi d'emails. Sur le nombre de jours où on envoie au moins un mail en dehors des plages de travail, bah, vous voyez que les hyperconnectés, ça franchit allègrement le nombre de jours ouvrés. Et en fait, on voit même sur les heures de week-end, il y en a qui sont à 30. Donc là, on est au-delà des 20 jours ouvrés. Si on regarde le temps de réunion, le nombre de jours où on a plus de 2 heures de réunion. Voilà. Pareil, même constat, les hyperconnectés ont à gauche, là, on voit beaucoup plus de jours sur un trimestre avec au moins 2 heures de réunion. 2 heures de réunion, ce n'est pas énorme, mais on a le même constat avec la moitié de leur temps en réunion. Pour résumer, on a un double phénomène. Une sursollicitation et une plage de récupération qui est comment dire, réduite par nos interactions. Et ça génère cette fatigue connective. Donc, c'est baisse de performance, trouble de la santé. Et c'est quelque chose sur lequel il est important, je pense, de prendre conscience pour pouvoir, je pense, la première étape, c'est rendre visible ce phénomène, aider les individus qui sont concernés à eux-mêmes en prendre conscience, et puis surtout à ne pas entretenir ce qu'on appelle la culture du débordement. Vous savez, c'est quand un de vos collègues ou un de vos pires, un de vos managers travaille le week-end et vous envoie un mail le week-end. Implicitement, sur certains d'entre nous, ça va avoir un effet de soit de modèle, soit le message c'est il faut que je réponde dans le week-end, oui, de modèle, il faut que j'en fasse autant. C'est ça la culture du débordement. Donc, il y a la flexibilité qu'on s'autorise ne doit pas être une pression pour les autres. Ça, ce sont nos données, et puis on les a complétées par une enquête Ipsos. Donc, on a pris un panel représentatif de 1 000 personnes dans des entreprises, des organisations qui ont plus de 500 personnes. 22%, donc un cinquième, qui trouvent une fatigue accrue après 1 heure de visio. Ça passe à plus de la moitié si on est à 2 heures de visio. 2 heures de visio, vous avez vu le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là quasiment tous les jours de la semaine. Et bien sûr, 3 heures de visio, c'est 70%. Voilà. Les visios, on n'en connaît pas encore les raisons scientifiques, on va dire, mais c'est plus fatigant qu'une réunion présentielle. C'est en tout cas comme ça que c'est perçu par tout un chacun. Là, encore une fois, on est sur une enquête. Donc, notre hybridation du travail, pour certains, on apprécie beaucoup pour cette flexibilité, elle a des effets de bord qu'il faut arriver à contenir pour ne pas créer d'autres problèmes derrière. Donc, il y a des causes à cette hyperconnexion qui sont structurelles, qui sont liées à l'organisation, qui sont liées à nos modes de fonctionnement qui ne se sont pas adaptés à ce travail hybride. Et nous, on. Pour essayer de prendre le problème sur comment dire, de manière simple, on peut résumer, en tout cas, on peut focaliser sur la réunion. La réunion, c'est. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on parlait déjà de réunionnite et j'ai l'impression que c'est pire encore aujourd'hui. Donc, ce sujet de la réunion, il va bien falloir le prendre à bras-le-corps parce qu'on ne va pas arriver à assurer cette qualité de vie au travail numérique sans une réduction des temps en réunion. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les hyperconnectés ne sont pas un modèle. On parle souvent d'avoir un agenda de ministre où on peut mettre sur un piédestal ceux qui sont tout le temps en réunion, très occupés, etc. Il faut changer cette culture-là. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Il est possible, et on a commencé à le montrer, d'arriver à fournir la même charge de travail. On veut qu'on a mesuré en nombre d'interactions équivalent en délimitant son temps de travail sur des heures usuelles de travail. Et ça, c'est important parce que c'est très différent d'avoir une journée intense et des plages de repos ou d'avoir une journée un peu moins intense, peut-être morcelée et pas de temps de repos. Et la notion de culture, ce que je disais aussi à l'instant, c'est vraiment important de ne pas propager la culture du débordement. Et on est tous parfois implicitement comment dire, complaisants avec ça ou ou contributeur à cette culture du débordement. En tout cas, moi, je sais qu'en tant que manager, j'essaie de faire de plus en plus gaffe parce qu'il y a 10 ans, on ne se préoccupait pas de ce sujet-là. La réunion, donc c'est vraiment pour nous un sujet simple à identifier et à traiter, parce que chacun d'entre vous, vous pouvez aller regarder votre agenda au-dessus de vos collègues et ou quand vous organisez une réunion, constater que vous n'arrivez pas à trouver de créneau commun. Voilà, je pense que c'est monnaie courante. Aujourd'hui, on organise des réunions, pas forcément parce qu'on a besoin d'interagir avec quelqu'un, mais pour capter son attention. Si je veux que la personne, mon chef ou un tel, soit mobilisé sur ce sujet-là, soit informé de ce sujet-là, ou me donne une réponse sur ce sujet-là, bah, il faut que je le convie à une réunion. C'est une manière de capter du temps, de mobiliser de la ressource dans des organisations qui sont de plus en plus décentralisées et hyper connectées. Pour revoir le rôle des réunions. Et puis, si on s'intéresse aussi à l'efficacité des réunions, donc là, on est allé toujours avec notre sondage, on voit que 58% des répondants pensent qu'une réunion sur deux pourrait être évitée ou réduite. Donc, il y a un vrai problème d'efficacité aux réunions, je ne vous l'apprends pas quelque part, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait rien depuis des années sur le sujet des réunions? C'est ça la question. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est attelé à ce problème-là. On a des premiers résultats, mais il y a encore du chemin pour arriver à faire en sorte que les équipes se questionnent sur le sujet des réunions. Alors, on a eu une petite fenêtre d'opportunité avec l'arrivée du travail hybride où beaucoup d'organisations, du coup, ont profité pour questionner leur pratique de travail. Donc, c'est toujours d'actualité, c'est le bon moment. Et pour tout simplement, ça commence par pourquoi nos réunions font 1 heure? Quel que soit le sujet, ça fait 1 heure. Enfin, voilà, c'est facile à... Il faut juste prendre 2 secondes pour se dire, bah oui, non, y a pas de raison. C'est que notre agenda, il est découpé en heures. Et puis, quand je fais une nouvelle réunion, on me propose 1 heure, je prends 1 heure. Et puis, je fais tenir des choses dedans. Voilà. Et en plus, on n'arrive pas à tenir toujours le temps de 1 heure. Donc, c'est ça à questionner. Hein. Ça n'a rien de... Je ne vous parle pas de trucs sorciers, de trucs savants. C'est des choses qu'on connaît tous. Mais c'est arriver à se faire en sorte qu'on prenne ce sujet-là, on le mette sur la table et qu'on décide de tester des choses. Je ne parle même pas de solution. On teste des choses. On teste de dire, bah maintenant, on ne s'invite plus sur 1 heure, on s'invite sur 50 minutes. Et on fait attention, celui qui anime la réunion, il a pour responsabilité de libérer tout le monde au bout de 50 minutes. Voilà. Et ça, si vous arrivez à en faire un challenge, à le gamifier, à en faire quelque chose presque de sympathique au sein de l'organisation, c'est beaucoup plus facile d'entraîner son équipe sur ce changement de pratique que si on commence à contraindre les gens à ne plus faire de réunion ou à leur imposer des réunions plus courtes. Voilà. Donc pour résumer, on a au moins 10%, et je pense qu'on a un deuxième volet de l'étude qui va sortir dans 10 jours. Je ne vais pas en dévoiler les résultats, mais gardez en tête que c'est 10% avec des critères qui ne sont pas très sélectifs sur les heures de travail. La charge cognitive nuit à la santé physique des gens. Ce n'est pas uniquement je suis crevé, je vais m'endormir. Non, c'est un vrai problème de santé. Et les organisations, les entreprises sont responsables de préserver la santé de leurs collaborateurs. Et heureusement, et dans une ère numérique, il va falloir qu'on mette en place des outils pour suivre ce sujet-là. Voilà. Ce n'est pas un sujet individuel. Il n'y a pas ceux qui savent travailler, ceux qui ne savent pas travailler. Non, ça, c'est vraiment se voiler la face. C'est bien un sujet culturel ou structurel. Et à la marge, il y a effectivement des progrès à faire à l'échelle individuelle. Mais si vous mettez une jeune recrue dans vos organisations, elle va très vite se coller à vos modes de fonctionnement. C'est un des éléments qui montre que ce ne sont pas des sujets individuels. Et puis aujourd'hui, on a de la data. Donc, la data, elle vous permet quand même d'objectiver les choses. Et objectiver les choses, ça permet d'aider à renforcer la nécessité de changer. Moi, c'est mon petit espoir, et c'est pour ça qu'on bosse sur Grit, c'est que on s'est laissé endormir avec cette réunionite ou cet excès d'informations, de mails, et puis on prend plus conscience finalement que les choses dérivent, se dégradent. La donnée, elle a le mérite de nous montrer une trajectoire et elle nous met face à une réalité. Ensuite, elle a un autre mérite, c'est que lorsqu'on fait un effort, lorsqu'on essaye d'être vertueux sur ses réunions ou vertueux sur la gestion de son information, de ses emails, etc., il n'y a personne pour nous récompenser. Et on fonctionne tous un peu de la même manière. On va faire un effort au regard du bénéfice qu'on pense pouvoir obtenir, la certitude et comment dire, la nature du bénéfice. La data, ça permet d'avoir un bénéfice qui va être visible et certain. Donc, c'est beaucoup plus motivant de faire des petits pas lorsqu'on est capable de les mesurer que sans. Voilà. Et les solutions, ne cherchez pas des solutions magiques. Il suffit juste de se questionner. Et en général, le bon sens de l'équipe permet de trouver des réponses. Et c'est le sujet, c'est plus d'arriver à faire qu'une nouvelle discipline, un nouveau rituel s'installe. Voilà, c'était ça l'image. Vous la connaissez peut-être, c'est une métaphore. On n'a jamais mis une grenouille dans une casserole. Hein. C'est une métaphore. Mais la métaphore, j'aurais pu parler aussi du colibri tout à l'heure, c'est la grenouille. Vous faites une expérience virtuelle. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide, vous allumez le feu, et puis la grenouille, elle s'engourdit, et puis elle se laisse mourir dans la casserole. Vous prenez cette même casserole avec de l'eau bouillante, vous jetez la grenouille dedans, elle réagit, elle a un sursaut, et elle se sauve en sortant de la casserole. Nous, on est la grenouille on se laisse endormir, on s'est complètement accoutumé à tout l'effet néfaste de l'infobésité et de l'hyperconnexion. Voilà. Donc, voilà, il faut que quelques-uns dans les organisations, pas forcément le grand chef, ce serait bien d'arriver à en avoir comme un sponsor, mais qui arrive à créer ce sursaut pour mobiliser tout le monde sur un sujet qui est quand même, c'est du bien-être au travail, c'est de l'efficacité et c'est un enjeu environnemental qui est maintenant quand même un enjeu qui est porté à plus haut niveau dans l'entreprise. Donc cette question du temps aussi, pour terminer, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que vous pourriez faire avec un peu plus de temps? Nous, on l'a posé en fait à un certain nombre de personnes et on s'est rendu compte que au-delà du fait que l'accumulation de réunions nous emmenait à être en situation de débordement, le temps enfin les activités qui passaient à la trappe à cause de ces excès de réunion étaient des activités qui étaient certes pas très longues, mais essentielles. Donc ça va être des temps d'apprentissage, ça va être des temps de veille, ça va être des temps de sociabilisation, de socialité, ouais, de liens sociaux avec ses collègues. Ça va être ce genre de choses. Donc ça prend pas beaucoup de temps de prendre 10 minutes à la machine à café à un moment donné pour faire une pause, mais ça fait du bien. Voilà, d'échanger avec ses collègues. On vient quand même au bureau, au travail aussi pour être dans un collectif. Si les débordements ou l'allongement des petits temps de réunion ou l'absence d'espace entre les réunions nous empêchent de faire ça, si on n'a plus le temps de faire un peu de veille sur les sujets qui nous motivent, de progresser dans notre métier, tout ça sont des facteurs de démobilisation, de désintérêt. Donc, que ce soit pour l'individu, le manager ou l'organisation, il y a un intérêt à redonner de la marge de manœuvre et à redonner cette maîtrise sur le temps. Voilà. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec la data et notre application Grit. Voilà, et ça, c'est ma dernière slide. Et après, je suis à l'écoute de vos questions. Donc, mon message, déjà, c'est qu'on est tous acteurs de tout ça. Et si on considère que ce n'est pas à nous d'agir, c'est quelque part, on se cache derrière son petit doigt, que ce soit sur les aspects environnementaux ou sur l'aspect de l'hyperconnexion. Le deuxième point, ça me semble important de sortir de l'idée que la techno va être une réponse à nos problèmes. Moi, je suis de plus en plus sévère avec ce que j'ai fait ces 20 dernières années, c'est-à-dire promouvoir les nouvelles technologies. Il y a 20 ans, je faisais la promotion des NTIC, pour ceux qui se rappellent. C'était censé nous faire gagner du temps pour trouver de l'information, nous faire gagner du temps pour collaborer ou mieux collaborer, etc. J'ai l'impression quand même qu'on s'est un peu qu'on n'a pas atteint la promesse. Et ce n'est pas le métaverse et ce n'est pas l'IA générative qui va changer la donne. Je ne suis pas sûr que produire des contrôles de réunion à gogo automatiquement va rendre les réunions plus claires et les prises de décision plus simples et les plans d'action exécutés. Et puis, autre message important, c'est qu'il y a vraiment des victoires à portée de main à partir du moment où vous êtes dans cette logique de petits pas et que vous le faites en équipe. Je vous l'ai montré avec l'exemple de Accor, mais on l'a fait aussi chez Bouygues Télécom, enfin, dans d'autres organisations. Vous le faites vous probablement aussi avec des opérations digital clean-up. Voilà. À partir du moment où on se mobilise sur ces sujets-là et qu'on est capable de quantifier, on peut récompenser et valoriser ces efforts. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas agir. Et c'est ma télécommande qui ne marche plus. Mais c'est pas grave, c'était ma dernière slide. Merci pour votre attention. À l'écoute de vos réactions ou questions. Qui se sent en situation d'hyperconnexion? Voilà, j'ai mis 10% déjà, voire largement. Est-ce que depuis que le travail à distance s'est un peu imposé avec le Covid, il y a eu des temps d'échange au sein de vos équipes sur vos pratiques de travail collective, soit sur les réunions, soit sur l'organisation du temps par rapport au travail à distance, travail sur site? Est-ce qu'il y a eu des temps dédiés à ça? Pas longtemps, hein, 1 heure de temps en temps, non? Pas plus que ça. D'accord.
On était déjà malade de la réunionite avant, de toute façon.
Ouais, ça aurait pu être l'occasion de...
Et ben du coup, moi, je trouve qu'il y en a, il y en a moins. Enfin, les gens sont plus à l'heure. Ça, alors, il y a les effets positifs si les gens sont à l'heure. Et puis, on voit aussi les gens qui sont finalement pas concernés. Ben, ils se déconnectent ou ils disparaissent pendant la réunion. Et puis, c'est très bien aussi, quoi. Enfin, moi, je le fais, hein, quand je fais une réunion où
D'accord.
je vois qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi, je me déconnecte, je fais autre chose.
Ouais, c'est effectivement, ou alors on cache la caméra et puis on trouve autre chose. Hein.
Y a des gens à distance. Justement, dans mon organisation, c'était plutôt le contraire. On n'était pas très réunionnite avant, le travail hybride. Mais depuis le Covid et tout ce qu'on a pu mettre en place pendant le Covid pour communiquer entre nous, c'est devenu infernal. Parce que du coup, on passait une organisation nationale avec... des entités partout en France, et du coup tout le monde en profite pour tout le monde communique ensemble par réunion et puis par téléphone. C'est l'enfer.
Ouais. Et pareil, sans que le rôle de la réunion ait été repensé, redéfini. Enfin,
Beaucoup de descendants.
beaucoup de descendants, d'accord.
Ouais, ça remplace les mails.
Ouais.
Moi, je fais le constat aussi qu'il y a un espèce de retour arrière, en fait, par rapport à enfin, à l'époque du Covid, où on a essayé, bon, alors, au départ, on a été un peu débordé, on va dire, par ce changement brutal. Et puis finalement, on a eu peut-être un peu cette réflexion sur comment garder le meilleur, entre guillemets, de ces changements-là et essayer de laisser de côté le pire, donc l'enchaînement pendant des visios, effectivement, à longueur de journée, par exemple. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu un retour arrière aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on revient finalement un peu dans nos habitudes de l'ancien monde. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais...
C'est-à-dire, on abandonne le travail à distance au profit du travail sur site.
Ouais, en partie. Et puis même, quoi, enfin, les mauvaises habitudes, entre guillemets, qu'on avait avant, reviennent.
Oui.
Voilà, reviennent.
Mais malheureusement, avec le potentiel comment dire, de cette connexion continue, c'est-à-dire, il y a quand même dans beaucoup de contextes avant, on s'arrêtait de travailler lorsqu'on quittait son lieu de travail. Ou alors c'était vraiment occasionnel de se reconnecter. Maintenant, c'est devenu presque courant.
Maintenant, on quitte plus son lieu de travail, en fait, quoi. On est toujours sur son lieu de travail, ou
Voilà, c'est
presque.
ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, la frontière est ténue.
D'autres questions?
Qui est-ce qui a envie d'agir? Là, c'est
Ah,
bien.
je viens partager mon expérience. Effectivement, suite quand on est revenu en contact après le Covid, tout de suite a été lancée la charte au droit à la déconnexion. Et alors qu'avant, je travaillais le week-end, à partir du moment où il y a eu la charte, c'était formalisé, donc c'était un cadre sécurisant pour moi. C'était fini. Et effectivement, je pose mon téléphone, même si c'est mon privé perso, enfin, qui était aussi mon pro à l'époque, je le posais le soir. Et mais
C'est
ça, c'est.
que le week-end ou non? C'est aussi le. Comment vous avez fait le... Non,
Avant?
non, non, le droit à la déconnexion,
Avant,
il a été
j'étais dans
fort.
les 10%. Mais ça,
D'accord.
c'était avant.
Ouais. Non, mais c'est un droit à la déconnexion qui a été délimité le soir également.
Oui, par l'entreprise de 8 à 18, enfin de 18h à 20h, à 8h du matin. 18h, 8h du matin.
D'accord.
7 jours sur 7, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7
Ah, d'accord.
sur les parties de France. mais de 18h à 8h, on a le droit de pas répondre.
D'accord. Et on devrait surtout recommander de pas solliciter.
Oui, il y a des gens, c'est encore difficile. Mais de moins en moins, je trouvais que ça s'améliorait grandement. Ouais. Grâce à ça. Parce que en tant que manager, se dire j'envoie un mail après 18h, alors qu'on peut le programmer.
Déjà.
Voilà.
Alors après les mitraillettes de mails, le
à
lundi
8h du matin,
à 9h, ce n'est pas très agréable. Mais ouais, en tout cas, on peut fonctionner à minima comme ça. Ouais.
Et ça fait du bien de déconnecter. Ah bah, important quand même.
Je pense aussi que les chiffres ils sont super intéressants et puis on se reconnaît forcément hein, dans plein de petits points. On sort encore du Covid et j'ai l'impression qu'on est encore sur cette inertie de nouveauté et on n'est pas en... Alors, même si c'est très bien d'agir tout de suite, mais je pense qu'il y a encore des effets, enfin des secondes secousses qui vont arriver et qu'on ne voit pas encore. Mais c'est vrai qu'on commence déjà... On bouge, ça a changé nos pratiques personnelles aussi, de se dire, tiens, ben, à la maison, je me réserve un espace bureau et j'y rentre pas. Moi, je suis en train de tilter que, par exemple, le week-end, je ne rentre pas dans cette pièce parce que, effectivement, c'est devenu le bureau. Mais j'ai eu les moyens de délimiter un endroit. Mmh. Et c'est peut-être pas la, ouais, c'est pas la possibilité que tout le monde a, peut-être. Et effectivement, on a encore des choses à apprendre et que.
Mais je pense que c'est plutôt bien l'approche que tu as de dire on est encore en train d'apprendre. Parce que moi, je vois au contraire d'autres qui se disent bon, c'est bon, on est passé, comment dire, on a fait ce saut en avant. Maintenant, la question du numérique est quelque part réglée, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, elle nous laisse quand même avec tout un tas d'effets de bord à gérer.
Et des questions, ouais.
Et des questions sans réponse, ouais.
Parce que moi perso, franchement, d'être chez moi, c'était, j'ai apprécié de ne pas avoir. Une heure de trajet, d'être à la maison, de voilà toute cette tension de venir au travail, ben je l'ai plus. Maintenant, quand je viens, alors je suis super contente de voir mes collègues, mais de me dire, je les vois tous dans les bureaux avec les casques et devant leurs écrans, je me dis, il y a un truc qu'on a loupé en fait. Mmh. C'est comme s'il y avait une opportunité et là, on n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Mais voilà donc.
Je pense qu'on a, je fais le même constat, hein, et je pense que réduire le temps qu'on passe en réunion serait une bonne solution.
C'est un peu comme, ça me faisait marrer parce que l'autre jour j'entendais une fille qui a eu son premier téléphone. Elle dicte les SMS qu'elle va envoyer. Et je me dis mais nous on se parlait direct, enfin, et c'est en fait des biais comme ça qui sont complètement illogiques.
Pas pour elle.
Oui, je pense qu'on n'a pas retrouvé vraiment le lien social en revenant au bureau, comme l'a dit Barbara. On est tous avec nos casques parce que les réunions sont devenues en majorité hybrides ou complètement à distance. Moi, je m'interroge sur l'impact sur la créativité. Parce que pour moi, la créativité, ce n'est pas en étant chacun chez soi ou chacun enfermé dans son bureau. Donc, comment faire? Est-ce qu'il y a des organismes qui ont réussi à innover avec l'évolution du mode de travail pour rester créatif?
Il y a pas mal de startups qui sont full remote, enfin, complètement à distance et qui arrivent à être très créatives. On sait faire aujourd'hui des ateliers créatifs à distance. Il y a des outils qui le permettent très bien. En France, on a Klaxoon. Donc, il y a des solutions de ce type-là. Après, c'est sur les liens faibles. Ce qu'on dit que c'est les connexions en fait, avec des profils qui partagent pas qui ne sont pas des copies de nous-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le même métier, qui ont le même mode de fonctionnement, qui finalement aussi permettent de créer des stimuli pour sortir du cadre, être un peu créatif, innovant. C'est ces liens faibles-là qui ont pâti dans beaucoup d'organisations parce qu'avant, on croisait des collègues, par exemple, le midi au restaurant d'entreprise ou dans les couloirs. Ce n'est plus le cas maintenant puisqu'on passe d'une visio à une autre. Et les réseaux sociaux d'entreprise sont censés normalement essayer de compenser ça. Mais je suis un peu d'accord avec toi. On verra ça, c'est à mon avis, on va voir les effets sur du long terme. Et on a plutôt tendance à penser que c'est un peu négatif pour les équipes. Ouais.
Moi, j'ai expérimenté un truc et c'était assez rigolo pendant les 2 ans là, de Covid. Le lundi matin, je prenais des gens au hasard hein, dans le service. On est 170, donc je n'allais pas arroser les 170. Je prenais des gens et puis je disais bonjour, bonne semaine. Et en fait, je l'ai fait assez régulièrement avec plein de gens et j'étais la seule. Il n'y a jamais personne qui a pris cette initiative. Et moi, je trouvais que c'était sympa parce qu'il y a forcément des gens qui répondaient, ouais, salut, ça va, bonne journée. En fait, c'était juste le lien, quand on parlait de lien faible, et voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas encore mûr pour utiliser la connexion pour créer ce lien-là.
Je peux répondre. Moi, je pense que c'est similaire à ce que tu as décrit avant par rapport au travail collaboratif. C'est le fait de travailler sur un document qui est encore brouillon et que les autres puissent le voir dans cet état. Je crois que le réseau social d'entreprise n'est pas encore dans les mœurs parce que ce que je vais écrire va être lu par tout le monde, alors que ce que je vais dire au café, ça va être en petit comité. Je pense que c'est ça, c'est le regard et comment les autres vont l'interpréter qui font que le réseau social d'entreprise, je pense, ne prend pas vraiment.
Ouais, je partage. Et après, c'est là où toute la démarche en fait, pour déployer un réseau social d'entreprise, elle est plus culturelle hein, que technique. Et c'est arrivé à créer ce climat qui permet en fait, de fixer quelques conventions qui doivent être tacites. Mais je ne sors pas du contexte le propos tenu par un de mes collègues ou regarde, lire avec bienveillance ce qui a été dit parce qu'on ne sait pas, enfin voilà, un écrit peut toujours être pris différemment, c'est pas aussi riche qu'un échange oral. Mais c'est sûr que quand vous écrivez quelque chose, quelqu'un demande de l'aide, vous apportez une réponse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient dire non, t'es nul, c'est pas ça, il y a tel process, et que cette personne en plus est un chef qui était en hyperconnexion, donc un peu plus agacé, ça tue toute expression ensuite dans les espaces. Ouais. Oui, merci beaucoup pour cet échange et puis l'attention accordée. À bientôt.
Merci Arnaud.